C'est parti. Bonsoir. Bienvenue, voilà. Léo et René. Ok, alors, puisqu'on est encore au mois de janvier, je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, je sais que jusqu'à la fin janvier, on a le droit de se souhaiter les vœux de bonne année. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est encore toujours dans la période où on a le droit de souhaiter bonne année. Et je trouve que quand on souhaite bonne année, c'est intéressant parce que ce qu'on souhaite aux gens reflète un petit peu justement quelles sont nos valeurs. Et ce qu'on souhaite aux gens quand on souhaite à quelqu'un la bonne année, reflète un petit peu ce qui est pour nous important, ce qu'on a envie que l'autre puisse avoir au cours de cette nouvelle année. Alors, ça c'est par exemple un truc que j'ai lu là quand c'était les vœux de bonne année. J'ai eu quelqu'un qui disait « Je te souhaite un an de santé, 52 semaines d'amour, 365 jours de joie, 8760 heures de satisfaction, 525600 minutes de prospérité et 31 536 000 secondes de bonheur. Bonne année 2012. » Voilà. Ah, c'est une année bissextile, du coup, ça joue pas, ça, alors. C'est 366, et puis ça change un peu tout le calcul. Là. C'est bien vu. Ouais. 52 semaines, ça reste juste. Voilà. Quelque part, quand on souhaite les vœux de bonne année, il y a comme un reflet de ce que sont nos valeurs. Et si on regarde aujourd'hui autour de nous, ben évidemment, ce qu'on se souhaite quand on commence une nouvelle année, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est que tout aille bien. C'est un petit peu les valeurs suprêmes de la société dans laquelle on vit. Et en soi, on va dire que ce n'est pas des mauvaises choses de vouloir à quelqu'un d'être en bonne santé, d'être heureux et de ne pas avoir de problème. Est-ce que ce qu'il faut souhaiter à quelqu'un par-dessus tout, c'est peut-être la question. En tout cas, quelque part, les valeurs de notre société, les valeurs peut-être suprêmes pour nous aujourd'hui, ça va être quand même le bonheur, ça va être la réussite familiale, la réussite professionnelle, voilà, la réussite des études, la réussite au niveau relationnel, avoir des amis, plus on en a sur Facebook, plus on est populaire et mieux c'est, et, etc., etc. Et du coup, là-dedans, on peut se poser un petit peu la question de quelle place pour la souffrance. Quelle place y a-t-il là pour la souffrance? La souffrance, est-ce qu'elle a une place? Est-ce qu'elle n'est pas déjà tout de suite vue comme un échec, comme quelque chose qui ne devrait pas exister et auquel on a peine à donner un sens? Aujourd'hui, on sait qu'on vit aussi dans une société où on a tendance à rejeter, refuser tout ce qui est mal-être. Alors, nos voisins français sont les grands champions des consommateurs de comment on appelle ça, de calmants, d'anxiolytiques et compagnie, les antidépressifs, etc. Alors, les chiffres, hein, parce que c'est impressionnant. En France, il y a 12% des hommes qui consomment des anxiolytiques en 2006 et 20% des femmes. Une femme sur cinq, c'est énorme. Il y a quelque part derrière le message... quand ça va mal, ça ne devrait pas aller mal, et du coup, il faut peut-être que je prenne quelque chose, que j'ai des médicaments, que j'ai quelque chose qui m'aide à me sentir bien, parce que ce n'est pas normal que je sois malheureux, quoi. En Suisse, on est moins nombreux, mais voilà, les chiffres en Suisse, en 2008, c'était 2,2% d'antidépresseurs chez les hommes et 3,9% de consommation chez les femmes. Ouais. Hein? Il y a une sacrée nuance entre la France et la Suisse.
Mais ils ne sont peut-être pas remboursés en Suisse. Ouais.
C'est peut-être ça. Ils ne sont pas remboursés. Ouais.
Entre 3% et 20%.
Deux choses par rapport à ça, je peux rajouter.
Oui, oui, bien sûr.
Avec David, justement, que tu connais bien.
Ouais.
Il est rentré d'Inde cet été. Il a fait des missions, enfin voilà, bénévoles, des enfants dans les centres d'orphelins ou de lépreux. Et puis, il est revenu complètement perturbé de revenir en Suisse. Parce que lui, il sait qu'en Suisse, la première cause de mortalité chez les jeunes, pas les enfants, mais chez les jeunes, c'est le suicide. Mm-hmm. Et il me dit, mais quand il voyait la misère et tout ce qu'il a vu là-bas, il me dit, mais je ne comprends pas, dans ce pays où on a beaucoup, presque des pays d'Europe, où il y a presque tout, qu'il y a autant de suicides. Alors, j'allais dire que par rapport aux histoires de consommation de médicaments, moi qui suis aussi un peu d'autre côté, le problème qu'il y a en France, qu'il n'y a pas en Suisse, ou alors ça peut être, un problème, c'est qu'en France, les médecins ne voient les gens que 10 minutes, un quart d'heure quand ils ont une consultation, parce qu'ils sont payés à l'acte et pas au temps. Ce qui fait que quand quelqu'un va mal, en France, il n'a même pas une vraie oreille, il n'a pas le temps d'avoir quelqu'un qui a une oreille attentive pour aller jusqu'au bout de son mal-être. On va lui donner facilement un antidépresseur parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Alors qu'en Suisse, le temps, c'est... Bon, un médecin va prendre du temps puisque la facturation est différente. Alors peut-être qu'on consomme plus facilement aussi des antidépresseurs en France par rapport à ça.
Au lieu d'apporter le soin personnel, voilà. Peut-être.
Non, alors. Mais je disais juste ça pour dire que le mal-être, il est peut-être autant en France qu'en Suisse.
Ah ouais. Probablement. Tout à fait, ouais. C'est ça. Il y a peut-être un problème similaire, mais une façon différente de le traiter dans les deux pays. Moi, c'est vrai que quand on est au milieu hospitalier, par exemple, et qu'on a une personne qui est malade, eh bien, quelque part, la souffrance est inévitable à certains moments, à certains stades de maladie ou à certaines situations de vie. Et pourtant, il y a comme... je ne sais pas si c'est la formation qu'ont le personnel soignant, etc., et tout ça, mais un petit peu ce message, c'est pas normal que vous souffrez. Si vous souffrez, dites-le nous, parce qu'on va prendre les mesures pour que vous ne souffriez pas, etc. Alors, c'est une bonne chose, en soi, parce que je crois qu'il faut, autant que possible, répondre à la souffrance. Mais en même temps, il y a aussi comme un message comme quoi on n'est pas obligé de souffrir. On a les moyens aujourd'hui d'éviter toute souffrance, presque. Et évidemment, ça serait fantastique, mais on n'y arrive pas. On arrive à diminuer, on arrive à anesthésier, on arrive à limiter la souffrance, mais on n'arrive pas à l'éliminer complètement. Alors voilà, moi, ça m'avait frappé en milieu hospitalier. Souvent, on utilise ce mot « il faut que vous soyez confortable ». Et je comprends la logique qu'il y a derrière, mais c'est pas évident non plus de savoir comment... dans la pratique, être confortable quand on est vraiment malade, c'est difficile à mettre en pratique, quoi. Voilà. Et puis une autre thématique, on vit dans une société aussi où on peut parler de tout, vraiment de tout, sauf il y a certaines choses dont on ne peut pas parler justement. Il y a une des choses dont on n'aime pas parler, c'est la mort. C'est une thématique qui est peu présente, qui est un petit peu scandale, qui est un peu tabou dans notre société. Et pour moi, ça reflète aussi quelque chose. Si vous allez dans un autre pays que l'Occident, l'approche de la mort sera assez différente que chez nous. Chez nous, il y a quand même une difficulté à aborder la mort, comme si c'était une réalité qu'on ne veut pas tellement reconnaître. On ne veut pas tellement voir... le fait que la mort existe et que finalement elle atteint chacun de nous tôt ou tard. Et y a d'autres sociétés où la façon d'aborder le deuil ou la mort, etc., est différente, est beaucoup plus visible. Alors que chez nous, la mort, elle va quand même être autant que possible traitée discrètement, on va dire. Ouais. Je ne sais pas si c'est un ressenti que vous avez aussi. J'ai l'impression que ce constat, à mon avis, il est lié au fait qu'on vit dans une société, justement, qui ne sait pas tellement quelle place donner à la souffrance. Puisque c'est une société qui a placé ses valeurs, je vous disais, quand on souhaite bonne année, il y a ces valeurs-là qui sont absolument placées en objectif absolu. Et puis derrière, eh bien, quand la souffrance est là, on ne sait pas tellement quel sens lui donner. On ne sait pas tellement... comment consoler une personne qui souffre. Dans une société, si vous êtes indien, par exemple, et que vous êtes hindou, et que vous souffrez, et bien votre consolation, ça sera probablement de vous dire, là, j'ai une vie difficile, mais Mais si je me bats et si j'affronte la souffrance de la bonne manière, quand je serai réincarné, je serai réincarné dans quelque chose de mieux. Donc la façon dont vous abordez la souffrance ou les épreuves de votre vie, eh bien, aura une influence. Alors que c'est lié au fait que ces gens-là croient qu'il y a quelque chose après la mort, que ça s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas à la mort. Nous, on vit dans une société où les gens sont dans une structure, dans une logique d'immédiateté, où la satisfaction, elle doit être pour maintenant. Et quand on n'a pas ce qu'on veut maintenant, et quand les choses ne tombent pas comme elles devraient maintenant, eh bien, il y a une grosse difficulté. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de consolation, parce qu'il n'y a pas non plus cette espérance qu'au-delà d'une situation difficile aujourd'hui, eh bien, il peut y avoir une espérance, il peut y avoir un espoir, il peut y avoir une vie après qui soit meilleure. Et donc, j'ai l'impression que le fait d'avoir éliminé la croyance en une vie après la mort, eh bien, conduit aussi les gens aujourd'hui à avoir peu de consolation et peu d'espérance quand ils sont confrontés à la souffrance et ultimement quand ils sont confrontés à la réalité de la mort. Alors ça, c'était une petite introduction sur comment peut-être j'ai l'impression un peu schématiquement et un peu grossièrement comment on a une difficulté à donner une place à la souffrance dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas chez nous en Suisse, en France. Et puis, ce qu'on va faire pendant ces soirées, notre but, c'est un petit peu, quelque part, nous dire, mais comment aborder cette thématique de la souffrance, comment lui donner une place qui soit juste, comment donner une place qui soit juste à la souffrance, quelle est la place, comment comprendre la souffrance, quelle est la place à lui donner, et d'une certaine manière aussi, je dirais, mon but, c'est de dire comment aussi être équipé pour le moment où la souffrance arrive, parce qu'elle tôt ou tard, elle nous arrive tous, probablement que vous l'avez tous déjà rencontrée dans votre vie, c'est pas possible autrement, et vous la rencontrerez encore. Et mon objectif à travers ces cinq soirées, c'est qu'on puisse aussi simplement être prêt. C'est pas qu'on peut être, on peut pas être équipé à l'avance pour quelque chose qu'on n'a pas encore, mais il y a peut-être certaines choses qu'on peut mettre en place au niveau de la connaissance, de comprendre que la souffrance, elle fait partie de ce monde, par exemple. Et de savoir, est-ce qu'il faut la prendre avec fatalité? Est-ce qu'il y a une espérance, justement? Quelle place donner à la souffrance dans ma vie lorsqu'elle arrive? Et si j'ai à cœur, moi, de vous donner ce cours, ces soirées, plutôt, c'est parce que, effectivement, moi, dans ma propre vie, j'ai passé aussi par des moments difficiles. Et moi, ce qui m'a énormément aidé dans ces moments difficiles, ça a été justement parce qu'il y avait certaines choses qui étaient en place dans ma vie et que j'ai pas remis en question à ce moment-là. Et certaines choses essentielles qui étaient en place et qui m'ont donné une espérance et qui m'ont aidé à pas être détruit par cette souffrance, mais à lui donner sa juste place. Et à pas lui donner, à pas la laisser me détruire d'une certaine manière. Elle a pas détruit mon espérance, elle a pas détruit certaines convictions fondamentales que j'avais, qui étaient en place dans ma vie, et qui restent en place quoi qu'il arrive. C'est des convictions qui sont pas liées aux circonstances du jour le jour, mais qui sont plus profondes. Et c'est des convictions que je vous souhaite d'avoir aussi. Alors, avant de passer à la thématique de la première soirée, et ce soir, l'objectif, ça sera de comprendre la souffrance à la lumière d'un monde brisé, d'un monde qui est pas plus tel qu'il devrait être. Je vous propose juste très brièvement de voir un petit peu les trois principales réponses que dans l'histoire de la philosophie, on trouve par rapport au problème de la souffrance et du mal. Je vais être bref là-dessus. Il y a une position qu'on peut appeler optimiste. Et là, je me réfère à un auteur qui s'appelle Henri Blocher, qui a écrit un livre qui s'appelle Le mal et la croix, et qui recense ces différents courants de pensée. La position optimiste, c'est une position qui va tendre plutôt à nier l'existence du mal. Qui va dire que le mal n'existe pas vraiment, et que quand il y a du mal, il est là, mais pour le bien, et que finalement, ultimement, c'est toujours le bien qui l'emporte. Le mal peut arriver, mais c'est pour un bien meilleur. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le côté... Il y a des gens, quand il y a une tuile qui vous arrive, ils vont dire, oui, bon, bah, tu vois, c'est difficile, mais c'est sûrement pour ton bien. C'est sûrement pour que quelque chose de bien t'arrive et pour t'amener plus loin, etc. Et donc, finalement, le mal, en certains sens, est nié parce qu'il a, même quand il arrive, il a une bonne finalité, systématiquement. Donc, c'est un système dans lequel on va toujours réussir à expliquer le mal parce que, finalement, c'est bien. Voilà. Et dans le courant de l'histoire, on a trouvé différents courants qui se sont inscrits là-dedans. Pour en citer qu'un, le stoïcisme, par exemple, s'inscrit là-dedans. Donc, pour eux, justement, les stoïques, pour eux, l'univers est régi par la raison. Et donc il y a une espèce de providence divine qui fait que rien n'arrive par hasard et que si les choses arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison là-derrière. Et voilà, justement, cette raison est bonne. Et notre rôle à nous, en tant qu'humains, ça sera de comprendre pourquoi cette chose est arrivée. Et si on arrive à comprendre de la bonne façon, on verra que la chose, en fait, était bonne, a été prévue pour quelque chose. Ouais, ça, c'est... Et il y a différents courants qui s'inscrivent là-dedans. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on peut trouver parfois des gens qui pensent un petit peu de cette façon-là et qui vont essayer de minimiser le mal, la souffrance quand elle vous arrive, pour vous dire, en essayant de vous consoler, en vous disant « Oui, mais t'inquiète pas, c'est pas si grave, ça t'arrive, mais c'est pour mieux rebondir après, et compagnie, etc. » C'est pas forcément une vraie consolation, parce qu'il y a tout un tas de situations où on n'arrive pas à expliquer, on n'arrive pas à comprendre, et où franchement, c'est pas juste de dire... Ouais, mais tu comprends, ça arrive, mais c'est pas grave, c'est pour ton bien, etc. quoi. Je pense que vous avez tous des exemples personnels où vous pouvez tous penser à l'histoire, à plein de cas où vous dites ça c'est juste, c'est tout simplement injuste, c'est pas normal, ça aurait jamais dû exister, et il y a rien qui le justifie. Voilà la position optimiste. Alors après, il y a une position qui est à l'autre extrême, c'est la position pessimiste. Et la position pessimiste, elle, c'est de voir le mal partout. Et quelque part, là, dans cette position-là, tout est mauvais. Dans cette position-là, tout est mauvais. La vie est mauvaise, elle est souffrance de A à Z. Et quelque part, là, on est dans un autre extrême. Voilà. Quelque part, dans ce monde-là, dans cette vision-là, même quand vous faites quelque chose de bien, au fond, la personne va savoir que vous le faites avec des mauvaises intentions. Que, voilà, si vous donnez pour les autres, en fait, c'est parce que vous voulez vous sentir bien, etc. Voilà, le mal est derrière tout, derrière toute chose, dans cette optique-là. Voilà, la position pessimiste. Ouais, un petit peu le côté... De toute façon, ils sont tous pourris, hein. Voilà. Ils sont tous pourris, de toute façon. C'est toujours la même chose. Voilà, faut pas se leurrer. On vit dans un monde qui est mauvais et tout est mauvais. Voilà. Ça, c'est la position pessimiste. On la retrouve, par exemple, dans le bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme, si elle a la transcendance, c'est justement entrer dans le vide, c'est sortir du réel, parce que tout le réel est mauvais quelque part. C'est pour ça qu'il faut le quitter. Faut quitter le monde parce que le monde est mauvais. Voilà, tout ce qui est dans le monde est mauvais. Voilà. Bref, voilà, il y a plusieurs courants qui s'inscrivent là-dedans. Et puis, il y a une autre position encore, qui est la position qu'on peut appeler dualiste. Et dans cette position-là, vous avez le bien et le mal qui s'affrontent. Et puis, c'est ça qui fait tourner le monde. L'affrontation, la confrontation entre le bien et le mal. C'est le bien et le mal qui s'affrontent. Mais des fois, il y en a peut-être un qui est un peu plus fort que l'autre. Mais voilà, c'est comme s'il y avait deux dieux, deux principes qui sont là, qui s'affrontent. Et c'est ça qui fait tourner le mal. Il y a deux choses distinctes. Mais voilà, elles sont là. C'est la position manichéenne, si on veut. Mani, c'était quelqu'un au IIIe siècle qui croyait qu'il y avait deux entités qui dirigeaient le monde. Voilà, l'une bonne et l'une mauvaise. Et que c'était ça qui faisait que le monde était le monde, quoi. Donc ça, c'est un petit peu les trois positions un peu extrêmes qu'on trouve. Et finalement, les trois offrent peu de consolation. La première, l'optimiste, c'est une façon de ne pas voir la réalité du mal. Et en s'anesthésiant au mal, on s'anesthésie au bien, on perd la capacité, peut-être qu'on ne souffre plus, mais en même temps, on jouit peut-être plus non plus du bien, parce qu'on n'arrive plus non plus à définir le bien si on écarte le mal. Dans la position pessimiste, elle n'est pas très satisfaisante non plus, elle oublie de mentionner le fait que que s'il y a le mal, c'est parce qu'il y avait un bien à la base qui a été corrompu. Donc il y a quand même un idéal qui existe. Si on parle du mal, c'est quand même qu'on croit qu'il existe quelque chose de bon. Sinon, le mal est indéfinissable. Alors voilà. Je ne vais pas rentrer plus longtemps dans cette discussion un petit peu philosophique, mais c'était pour vous donner ce petit aperçu, pour que vous sachiez, voilà, en gros, les trois grands courants de pensée, on peut dire, c'est un petit peu les trois archétypes, hein. Après, à l'intérieur, les positions sont plus nuancées, mais c'est les trois grosses réponses qu'on trouve dans l'histoire. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer gentiment dans le texte de ce soir. Et... ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai imprimé ce texte, et je crois que j'en ai pas imprimé assez parce que je pensais pas qu'on serait si nombreux. Mais j'en ai une quinzaine là. Donc ce soir, on va lire dans Genèse 3. Alors si vous avez une Bible, vous pouvez suivre dans votre Bible, vous pouvez suivre sur ce texte. Voilà. Il y en a une quinzaine, donc il y en a quand même, vous pouvez quand même vous servir. Hein. En fait, pour commencer cette série de thématiques sur la souffrance, il me semblait que c'était en fait le plus logique, c'était de commencer par ce texte. Et ça, le texte de Genèse 3, en fait, c'est le troisième chapitre de la Bible, et c'est le récit qui présente le moment où les choses ont mal tourné. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que dans Genèse 1 et 2. Eh bien, on a le récit de la création. Dieu crée un monde qui est parfait. Et dans ce monde parfait, il place l'homme et la femme. Et c'est un monde où les gens ne meurent pas, où les gens ne sont pas malades, où les gens... le dernier verset du chapitre 2 dit qu'ils étaient nus et qu'ils n'en avaient pas honte, parce que y a une dimension symbolique là derrière. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien à se cacher. Ils pouvaient être totalement transparents les uns avec les autres. Donc les relations... humaine était parfaitement saine, la relation avec Dieu était parfaite aussi, la création n'était pas corrompue. Donc on est dans un monde qui est parfait, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie et tout ça.
Il n'y a pas de souffrance
jusque-là. Mais là, c'est là qu'arrive le chapitre 3. Et c'est ce chapitre qu'on va lire, donc je propose qu'une première personne lise les 12 premiers versets, et puis qu'une deuxième lise la suite. Donc peut-être un volontaire pour lire la première moitié, puis après un autre volontaire pour lire la deuxième moitié.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme... Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé.
Voilà, quelqu'un peut prendre la suite.
L'Éternel, Dieu, dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Et l'Éternel, Dieu, dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence. » Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Et la femme, à la femme, il dit, je rendrai très grand tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants et ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'ai commandé disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines, des ronces, et tu mangeras l'arbre des champs, l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'homme appellera sa femme du nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'herbe, de vie et n'en mangera et ne vivra à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient et le plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de la vie.
Merci. Alors, ce n'est pas un texte tout facile à comprendre. Pour certains, pour ceux qui ont grandi dans une église, c'est un texte qui est un grand classique. Pour d'autres, c'est peut-être la première fois que vous le lisez. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va faire un petit survol de ce texte. Et puis après, on aura un petit moment aussi où je vous poserai une question bien précise. Et vous allez m'aider à répondre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc on a ce serpent. Est-ce que c'était un vrai serpent ? Est-ce que c'est du symbolisme ici ? Je ne sais pas. Il y a différentes interprétations là-dessus. C'est pas ça qui est le plus important à comprendre ici. Le plus important, c'est de comprendre comment, le mécanisme qui a fait que l'homme et la femme se sont détournés du projet initial et qu'est-ce qui a fait que le monde est devenu différent de ce qu'il avait été prévu d'être au début. On était dans un monde qui devait être parfait, et tout d'un coup, à la fin, on est décrit un monde qui n'est plus du tout. Ce qui se passe, c'est que donc ce serpent vient voir la femme et lui dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et ce qu'il fait à ce moment-là, il introduit la possibilité de douter de Dieu. Il introduit une dimension de scepticisme. Il invite la femme à évaluer Dieu. Ce qu'il fait dans un certain sens, c'est il lui dit ce Dieu-là, il est en train de vous refuser quelque chose. Tu penses vraiment que c'est juste ? Et ce qu'elle sous-entend d'une certaine manière, c'est que ce Dieu, et peut-être pas ce que le serpent sous-entend là d'une certaine manière, c'est que ce Dieu est peut-être pas si bon qu'il en a l'air. Et qu'elle ferait peut-être mieux de pas vraiment lui faire confiance. Parce qu'il est peut-être en train de la priver de quelque chose de bien, de mieux encore. Et en écoutant Dieu, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour elle. si elle se détournait de lui, si elle décidait elle-même ce qui était bien et mauvais, eh bien sa vie serait bien meilleure, serait bien plus épanouie, etc., etc. Il est en train de lui dire, est-ce que tu veux vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que tu es sûr, au final, la question est là, est-ce que tu es sûr que ce Dieu est vraiment bon? Est-ce que tu es sûr que tu peux lui confier ta vie? Aveuglément, sans réfléchir. Et là, il introduit la question du doute. Il l'invite à évaluer Dieu et à douter de Dieu. D'ailleurs, il fait ça en disant une semi-vérité. Donc, il va lui dire, est-ce qu'il a vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il exagère, parce qu'ils n'avaient pas le droit ils avaient le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul. Donc, il renverse les choses et il dit, est-ce qu'il a vraiment dit que vous avez l'interdiction de toucher à tous les fruits? Donc, il y a une exagération qui sous-entend presque, il dit, mais vraiment, il est gonflé, celui-là. Comment ça se fait qu'il vous interdit de manger d'un fruit? S'il était bon, il vous dirait, allez-y, faites-vous plaisir. Pourquoi est-ce que Dieu vous interdit? C'est un Dieu qui veut pas votre bien. C'est un Dieu d'interdit. C'est un Dieu qui vous dit non tout le temps quand vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voulez vraiment faire confiance à ce Dieu-là? Vous comprenez la logique qu'il y a là derrière? Cette logique, c'est la même depuis le début et jusqu'à maintenant encore. Ce mensonge qui veut nous faire croire, mais surtout, faites pas confiance à Dieu. Parce que si vous faites confiance à Dieu, vous serez vraiment malheureux, vous serez les derniers des losers, vous allez tout rater. Si vous voulez avoir une chouette vie, si vous voulez faire ce que vous voulez, mais allez-y. C'est vous qui savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est pas Dieu, il ne le sait pas. Dieu, il vous interdit des trucs fantastiques. Il vous ferme la porte à une vie géniale. Faites-lui pas confiance. C'est ce grand mensonge. Et ce grand mensonge, il a pour fondement de nous faire croire que Dieu n'est pas bon. Qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Que lui faire confiance au-delà des circonstances, même si on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a interdit de prendre de cet arbre? Je ne sais pas, mais je lui fais confiance. Ce n'est pas grave. Je sais qu'il est Dieu, je sais ce qu'il fait, c'est bon. Elle n'a pas cette attitude-là. Et là, Ève, au lieu de répondre au diable, tu es fou de me poser une question pareille. Je suis au paradis. Il y a tout qui est parfait. De quoi est-ce que tu veux que je me plaigne? Tout se passe, c'est fantastique où on est. Qu'est-ce que tu veux que j'ai en plus? J'ai tout. Au lieu de ça, elle lui répond pas comme ça, elle lui dit, ben, c'est vrai, on mange du fruit des arbres du jardin, mais il y a le fruit de l'arbre qui est au milieu. Eh bien, elle a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous y mourrez. Donc là, elle rajoute quelque chose aussi qui semble dire, comme si elle rentrait dans le système en disant, c'est vrai, c'est pas juste. Parce qu'elle dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Il n'a pas dit, vous n'y toucherez pas, elle a dit, vous n'en mangerez pas. Bon. Et le serpent lui dit, mais c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et là aussi, il dit une semi-vérité, et c'est une semi-vérité. Parce que d'un côté, ils ne sont pas morts tout de suite, mais d'un autre côté, si, ils sont morts tout de suite. Dans le sens qu'ils ont été immédiatement séparés de Dieu. Donc il y a une mort spirituelle, une séparation de Dieu. Et puis, ils sont réellement morts par la suite aussi, puisque la mort est entrée, avant la mort n'existait pas. Et il dit aussi quelque chose de pas tellement faux, dans le sens qu'ils vont connaître le bien et le mal. Mais décider ce qui est bien et ce qui est mauvais, c'était une prérogative de Dieu. C'était pas eux, et ils ont voulu prendre une place qui revient à Dieu. Quand on lit les premiers chapitres de la création, vous avez Dieu qui crée, et à la fin de chaque jour, il dit, et Dieu vit que c'était bon. C'est Dieu qui évalue la création. C'est Dieu qui est là pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et là, l'homme et la femme étaient appelés à lui faire confiance. Et Satan leur propose de décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc effectivement, d'une certaine manière, ils vont connaître le bien et le mal. Ils vont faire l'expérience du bien et surtout du mal. Donc dans un certain sens, il avait raison. Mais d'un autre côté, il les a trompés parce que ce n'était pas dans le sens qu'ils auraient espéré. Et la femme prend, hein, et puis elle invite son mari à donner, à en prendre aussi, et son mari en prend, il en mange. Et là, les yeux des deux s'ouvrent, et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Cette question d'évaluer son créateur, de vouloir lui dire ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire, c'est quelque chose qui nous ressemble et qui est typique. J'ai l'impression que c'est quelque chose que, dans lequel on se retrouve. Et combien de fois est-ce qu'on n'est pas dans une attitude où on dit si Dieu existait, eh bien il devrait faire les choses différemment. Et puisque les choses ne sont pas comme ça, je ne peux pas croire en lui. Quand on faisait ces questionnaires là avec PlayStation, donc on interrogeait des gens, on leur faisait un questionnaire pendant les vacances d'été, on allait voir les vacanciers sur la plage avec un questionnaire, et puis le but c'était aussi d'engager la conversation à travers ça. Et la dernière question qu'on leur posait c'était si vous pouviez rencontrer Dieu, quelle question est-ce que vous lui poserez? Et puis 9 fois sur 10, les gens disaient, mais si je pouvais rencontrer Dieu, je lui dirais, pourquoi est-ce que tu permets la souffrance? Pourquoi est-ce que tu permets le mal? Si Dieu existe, il ne devrait pas permettre ça. On entre dans une forme de reproche aussi à Dieu. Si Dieu existe, qu'il est tout-puissant, il ne devrait pas permettre que les choses tournent comme ça. Et quelque part, on lui reproche, un reproche qu'on devrait faire à nous, parce que si les choses ont mal tourné, c'est plutôt notre faute, ce n'est pas la sienne, hein. Moi, j'aimerais vous mettre en garde, vous inviter vraiment à vous mettre en garde par rapport à cette tentation de tomber dans des mensonges sur nous, des mensonges sur Dieu. Et je crois que ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse mettre en place dans notre vie, c'est de nous attacher à la vérité. Et quand on est dans une situation où on sent qu'il y a des pensées qui nous viennent, des choses qui nous viennent qui sont fausses, et bien de dire stop assez rapidement, et puis pas de laisser grandir ces choses-là en nous. Et pour moi, un des plus gros mensonges, c'est le mensonge de croire qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à Dieu. Et ce que j'espère, c'est que dans votre cœur, vous puissiez placer ce pilier, cette conviction profonde de dire « je peux lui faire confiance, quoi qu'il arrive », même si les circonstances que je traverse sont totalement contraires à tout ce qui me semblerait logique. Je crois qu'il est bon et je veux lui faire confiance. Et si vous mettez ça en place dans votre vie, et bien, le jour où vous prenez une grosse claque ou le jour où la tempête arrive, quelque part, vous n'allez pas lutter contre Dieu. Parce que vous saurez qu'il est là et qu'il vous aime, même si vous ne comprenez pas. Vous pourrez lutter là où il faut lutter, mais vous aurez confiance en Dieu. Et ça c'est quelque part, pour moi, la chose, le fondement le plus important qu'on puisse mettre en place dans une vie, c'est dire « je te fais confiance ». Et c'est l'invitation que Dieu nous fait à travers toute la Bible. Faites-moi confiance. Ayez confiance en moi. Ayez la même confiance qu'un enfant à l'égard de son père. Cherche pas à comprendre pourquoi papa a dit ça, pourquoi maman. En tout cas, ça dépend des périodes. Mais la confiance aveugle d'un enfant, c'est la confiance qu'on est invité à avoir. Une confiance qui des fois, voilà, dépasse. Dépasse la raison, dépasse la compréhension de la situation qui nous frappe comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la raison, hein. C'est important de réfléchir, c'est important d'avoir un esprit critique, c'est important de pas d'analyser ce qu'on nous propose, de le peser, de l'examiner. Mais vis-à-vis de Dieu, il y a un moment donné, on est appelé à faire une confiance au-delà de la raison. Et c'est ce qu'on appelle la foi aussi. On a des bonnes raisons de lui faire confiance. Moi, je suis convaincu qu'il y a des bonnes raisons rationnelles de lui faire confiance. Mais à un moment donné, il s'agit aussi de lui faire confiance, aussi d'une certaine manière aveuglément. Qu'on comprenne ou pas ce qui se passe. Voilà, c'est vrai, moi je vous ai dit que dans ma vie, j'avais vécu des circonstances difficiles aussi. Et ce qui a été ma bouée de secours, c'était cette conviction de savoir que Dieu m'aimait. Et ça m'a permis de voir les événements sous une lumière totalement différente. Je n'étais pas en train d'être en colère contre Dieu, en train de dire mais pourquoi, je ne comprends pas, pourquoi tu me fais, tu permets ça, c'est tellement pas logique, c'est pas normal, etc., etc. Au lieu de lutter contre lui, eh bien ça m'a aidé par sa grâce, hein, dans un état d'esprit où j'ai pu lutter contre les difficultés, contre la maladie et ces choses-là, mais ça nous permet d'aborder la situation de manière totalement différente. Ouais. Par la suite, le texte présente les conséquences de ce choix de l'homme et de la femme. Les deux sont responsables. Et puis, l'Éternel vient, il arrive dans le jardin. L'homme et la femme se cachent, ils ont honte. Ils se couvrent de feuilles de figuier parce qu'ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte vis-à-vis de l'autre. Ils ont honte vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, tout ce qui était harmonieux au début a été brisé d'un coup. Leur relation avec l'environnement n'est plus la même. Leur relation avec Dieu n'est plus la même. Leur relation avec l'autre, leur relation vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous voyez, toutes les relations sont atteintes. La relation avec Dieu, c'est le domaine spirituel. La relation avec les autres, c'est le domaine plus sociologique. La relation à soi-même, c'est le domaine du psychologique. Voilà. L'environnement, la création est corrompue. Donc l'ensemble est touché par le péché. Et dans les tentations d'explication du mal, beaucoup de gens ont tendance à mettre le mal soit sur un endroit, soit sur un autre. Et la Bible a dit que c'est tout ça qui est touché. Aujourd'hui, beaucoup vont vous dire le problème, c'est l'homme. La nature serait bonne sans l'homme. Mais le problème, c'est l'homme, vous voyez ? Donc ils vont isoler le mal au niveau de l'homme. Certains vont vous dire, l'homme est bon, c'est la société qui est mauvaise. C'est la société qui le corrompt. À la base, l'homme naît, il est bon, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un... Mais dans la société, il devient quelqu'un de mauvais. Voilà, ça c'est l'influence de la théorie marxiste, par exemple, où l'homme pourrait être libéré, du mal s'il arrivait à se libérer de ses structures, des classes, etc. C'est l'influence d'un Rousseau. Par exemple, Rousseau disait que l'homme était un bon sauvage, c'était un homme bon, et à partir du moment où il entre en société, c'est là que naissent les conflits. Parce que c'est là que d'après lui, le cœur du problème, c'est la propriété. C'est-à-dire que c'est là où on va commencer à se battre pour la même chose. Tant qu'on est tout seul, tout va bien. Donc il disait, l'homme est bon, mais dès qu'on est à deux, dès qu'on devient plusieurs, dès qu'on est une société, eh bien il devient mauvais. Vous voyez, à chaque fois, il y a différentes tentatives d'expliquer le mal. La Bible dit, non, c'est tout est touché. Tous les domaines à la fois sont touchés. Et puis, vous avez l'énumération des conséquences. Pour la femme, les grossesses deviennent pénibles. La relation entre l'homme et la femme devient conflictuelle. Voilà, Dieu dit, tes désirs vont se porter sur elle, mais lui va te dominer. Donc, d'un côté, elle voudrait le dominer, elle voudrait peut-être l'instrumentaliser, etc. Lui domine sur elle. La relation est plus harmonieuse comme elle était. L'homme, lui, va plus pouvoir, va devoir travailler à la sueur de son front pour pouvoir manger, etc. Le sol est maudit et il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà, Adam, ça veut dire poussière, terre. Il a été tiré de la poussière et il va retourner à la poussière. Et puis on a cette fin de récit avec Adam et Ève qui sont expulsés du jardin. Alors ce récit nous apprend deux, trois points fondamentaux dans la perspective de notre thématique. D'abord, je crois que ce récit nous aide à comprendre la gravité de notre rébellion contre Dieu. C'est la source, c'est la cause de la souffrance, la cause première. Et peut-être on aurait tendance à vouloir rejeter la faute ailleurs, voilà, mais d'une certaine manière, on est responsable, d'après la Bible. La Bible nous dit, vous êtes responsable de la souffrance. C'est le point de départ de la Bible. Et du coup, la Bible nous invite à une certaine prudence. Vous savez, certes, on a des fois tendance moi, je voudrais simplement qu'on me donne ce que je mérite. C'est tout ce que je demande. J'en ai marre de me prendre des trucs que je ne mérite pas. Je n'ai pas mérité la souffrance qui m'arrive, etc. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me donne ce que je mérite. Je veux un monde qui soit juste. Mais la Bible, elle nous dit que ce qui devrait nous étonner, c'est justement que c'est presque qu'on soit encore en vie, finalement. Si on avait ce qu'on mérite, on n'aurait plus grand-chose. Je lisais, par exemple, le témoignage d'un homme qui a perdu dans un accident sa mère, sa femme, sa fille. C'est lui qui conduisait, voilà, un alcoolique en face, voilà. Un accident, voilà, un drame terrible. Et dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, il explique que finalement, il dit, mais dans, à un moment donné, il était tenté par cette vision de dire, moi, je voudrais simplement ce que je mérite. Et moi, je mérite d'avoir ma femme, ma fille auprès de moi. Je ne mérite pas cet accident. Ce n'était même pas que j'ai fait une faute ou comme ça. C'était un alcoolique en face qui était bourré et qui nous est rentré dedans. Et finalement, il réalise, oui, mais si j'avais que ce que je mérite, j'aurais peut-être pas mérité d'avoir cette femme, cette fille, cette maman. Et il réalise que le temps qu'il a vécu avec ses femmes était un temps qu'il n'a pas forcément mérité non plus. Et que c'était un cadeau de les avoir. Et que dans un monde où on n'a que ce qu'on mérite, on n'aurait pas non plus... Il y a tout un tas de cadeaux et de belles choses qu'on reçoit, qu'on ne mérite pas, qu'on n'aurait plus. Et finalement, si on n'avait que ce qu'on mérite, on n'aurait pas grand-chose. La Bible dit que si on n'avait que ce qu'on mérite, on n'aurait même rien. On serait directement loin, quoi. On serait directement ce qu'on appelle en enfer, qui part si on avait directement ce qu'on mérite. Alors, ça nous invite à une certaine prudence par rapport à cette réflexion. Je veux ce que je mérite. C'est... Quelqu'un disait une fois, voilà, demandez à Dieu, donne-moi maintenant ce que je mérite, fais-moi justice. C'est une prière dangereuse, parce que s'il y répond, on est mal. Voilà. La Bible nous dit que, dans une certaine manière, que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, c'est simplement que Dieu nous a livrés aux conséquences de notre choix, du choix qu'on a fait de pas vouloir lui faire confiance, mais de vouloir décider nous-mêmes ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, de vouloir faire l'expérience du bien et du mal par nous-mêmes. Et ce que nous montre ce récit, et puis ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment important, c'est qu'il nous explique pourquoi, finalement, on a tous cette aspiration à une vie différente, qu'on soit chrétien ou pas, voilà, qu'on soit musulman ou pas, on a tous une aspiration, qu'on soit croyant ou pas, à un monde meilleur. Et pour moi, ça, c'est lié au fait que quelque part, nos ancêtres sont nés dans ce paradis-là. On est tous conscients que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas le monde tel qu'il devrait être. On a chacun, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit croyant ou pas, trouve que la mort, c'est pas normal. Trouve que la maladie, c'est pas normal, que ça devrait pas exister. Regrette que les relations entre êtres humains soient si compliquées et si conflictuelles, etc., etc. On a tous une aspiration à retourner au jardin d'Éden. On a tous, quelque part, c'est comme si notre ADN était au paradis, puis on a tous encore ce désir de vivre cette vie-là. Ça reste notre norme, quelque part. Et pour moi, ça, personnellement, c'est comme ça que je comprends l'aspiration qu'on a tous vers un monde meilleur et pourquoi on est, en tout cas, tous assez d'accord pour dire que le monde dans lequel on vit, il n'est pas tel qu'il devrait être. La douleur physique, quand on sait, si on touche un objet trop chaud, on a une douleur physique qui nous sert d'alarme pour nous inviter à retirer la main pour pas qu'on la brûle. Donc la douleur physique, elle a une utilité qui est de nous signaler qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, physiquement, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et qu'il y a un danger, qu'il faut que je fasse attention. Et moi, je crois que la souffrance, au sens large, elle est aussi le signal pour nous dire « ça ne devrait pas être comme ça ». Ce n'est pas normal que ce monde soit comme ça. C'est normal que vous aspiriez à autre chose, parce que ça devrait être autrement. Vous n'avez pas été fait pour vivre dans un monde qui est marqué par la souffrance. Vous avez été fait pour autre chose. Donc, quelque part, la souffrance, elle est le, comme la douleur physique, le signe pour nous dire que ça ne devrait pas être comme ça. Vous aspirez à autre chose et c'est normal. Vous avez été fait pour autre chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous allez m'aider à me dire, dans ce texte de Genèse 3, quels sont quelles sont les choses qui, quels sont les signes d'espoir qu'on a dans ce texte? Parce qu'on est dans le texte quelque part où entre guillemets tout a été gâché. On a l'impression que voilà, quel dommage quoi, hein, quel gâchis. Et pourtant dans ce texte, dès ce chapitre là où on est pourtant dans le chapitre où vraiment où, voilà où les choses ont mal tourné, eh bien il y a un certain nombre de signes d'espoir. Et on a dit notre thématique c'est au-delà de la souffrance une espérance. Eh bien dès ce chapitre où on nous explique pourquoi il y a la souffrance, pourquoi ce monde est marqué par la souffrance, eh bien on trouve aussi déjà un certain nombre de signes d'encouragement, d'espoir. Alors je vous invite à regarder, puis vous allez me dire ce que vous voyez. Hein, il les habille, ouais. Ouais, il les habille, ouais. Ouais. C'est alors ça, c'est... Ouais, Audrey nous dit, c'est le verset 20, alors. Hein. C'est ça, hein, tu pensais à ça? Donc, 21, voilà. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau dont il les revêtit. Ouais, il les habille. C'est-à-dire, il est conscient que la transparence totale est plus possible. Il est conscient qu'ils sont fragiles, qu'ils sont vulnérables, et il les habille. Et il les habille de quoi? Il les habille de peau. Ce qui veut dire que pour que eux soient habillés, pour que d'une certaine manière, pour que leur faute soit plus visible, hein, puisqu'il ne pouvait plus être transparent, il fallait cacher, il y avait quelque chose à cacher, il y avait quelque chose à couvrir. Eh bien, il a fallu que Dieu tue des animaux, visiblement, dont il a récupéré les peaux et dont il a couvert l'homme et la femme. Certains voient déjà là, en fait, une indication vers le fait que pour couvrir la faute de l'homme et la femme, eh bien, il y a un sacrifice qui est nécessaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre encore?
Il maudit le serpent.
Il maudit le serpent, oui. Ouais.
Il vient à la rencontre de l'homme.
Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est déjà la première chose. Hein. Au verset 9. Il ne les a pas abandonnés. Il revient. Et en fait, c'est vraiment un verset clé parce que ça veut dire que à ce moment-là, il décide de quand même continuer. Alors, on est conscient aujourd'hui des conséquences de ce choix. Hein. Il a décidé qu'on allait quand même continuer l'histoire. Et il aurait pu arrêter l'histoire. Hein. C'est-à-dire, la Bible aurait peut-être pu s'arrêter au verset 8. Voilà, échec de la tentative de Dieu de créer un monde parfait. Il y a la chute. Voilà, il détruit cette terre, il recommence quelque chose d'autre. On pourrait imaginer ça. On pourrait imaginer qu'ils disent bon, stop, on arrête là, quoi. On pourrait imaginer qu'ils disent bon, je les laisse se débrouiller. Maintenant, ils assument. Ils n'ont pas voulu de moi. Ok, je les laisse tout seul. Je ne vais pas revenir les voir. Je les laisse se débrouiller maintenant sans moi. Il revient vers eux. Il vient à la recherche et il dit voilà, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu? Et c'est vrai que moi déjà, en tout cas personnellement, j'y vois déjà vraiment l'amour de Dieu là, qui dit moi je vais pas les abandonner malgré tout. Et pourtant ça va lui coûter cher, hein, ça va lui coûter cher de pas arrêter l'histoire là, de pas juste dire bon tant pis pour vous quoi. Ça veut dire qu'il ouvre la porte à cette histoire qui est la nôtre finalement. Qui est une histoire pas simple, et qui est aussi une histoire remplie de souffrance pour lui. Dieu est un Dieu qui souffre de voir ce monde ne plus correspondre au plan initial qui était Éden. Donc il a choisi il a fait un choix qui allait impliquer une véritable souffrance pour lui aussi. Mais par amour, il a décidé de le faire. Ouais. Il y a encore d'autres choses. Hein.
L'homme peut parler donc à l'Éternel qui est tout proche.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais.
On va avoir cette relation avec lui.
Ouais.
Il parle.
Il lui parle, ouais. Là, en fait, on peut imaginer que on peut imaginer que l'homme est dans la forêt, qu'il reste caché, puis il n'arrive plus à parler à Dieu tout à fait face à face comme avant. Il continue à se parler, mais il y a quelque chose qui est... c'est plus compliqué de communiquer déjà. Ouais. Mais ils peuvent encore communiquer, ouais. Et c'est vrai que la Bible nous dit sans cesse que c'est un signe de la bonté de Dieu. Que justement, ce qui doit nous surprendre, c'est que c'est encore possible que l'histoire continue, que Dieu est encore là, etc. La Bible est... Voilà, les gens autour de nous sont surpris par le mal. Ils ne comprennent pas que ça soit là. Et comme je vous ai expliqué, c'est lié, à mon avis, au fait qu'on est né dans un endroit où le mal n'existait pas. Donc on a cette aspiration. Mais en même temps, la Bible nous dit que ce qui devrait nous surprendre, c'est pas que ce mal soit là. Les gens autour de nous, ils sont surpris par le mal. Mais la Bible nous dit qu'on ne devrait pas être surpris que ce mal soit là. Ce qui devrait nous surprendre, c'est que le mal ne nous ait pas totalement envahi, finalement. Que notre rébellion, on n'ait pas été totalement livré à notre rébellion. On devrait être surpris par la grâce, par le fait qu'on soit encore là, qu'on soit encore en vie, que l'histoire continue. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez encore?
Dans la finalité des temps, la descendance écrasera la tête du mal.
Ouais.
Je suppose que c'est l'humanité qui finira par...
Ouais.
Renverser.
Ouais.
C'est quand même un message d'espoir.
Ouais, c'est sûr.
Ça va coûter cher puisqu'il va nous blesser au talon. Mais
c'est sûr, ouais, c'est ça.
Une lutte, mais ouais. La finalité, elle est déjà inscrite.
Exactement. C'est incroyable, dès le début, la victoire est annoncée sur le mal. C'est-à-dire que il y a une lutte qui est annoncée, donc il y a une conséquence à cette entrée du péché dans le monde, voilà, la lutte. Entre le mal qui va s'attaquer à la descendance de la femme, donc à l'humanité, et en même temps une victoire finale. Il y aura un terme. Un jour, le serpent sera vaincu. Celui-ci t'écrasera la tête. Enfin, la descendance t'écrasera la tête. Quelqu'un ou voilà, dans cette descendance t'écrasera la tête. Ce que les gens disent, ce que la Bible dit ici, c'est que dans une certaine mesure, c'est l'annonce de la victoire sur Satan qui a été accomplie par Jésus-Christ. Si vous avez vu le film de la Passion du Christ de Mel Gibson, je ne sais pas si certains l'ont vu, ouais. Vous avez une allusion à ce verset-là au début du film. Vous avez Jésus qui est en pleine angoisse parce que il sait que son heure est arrivée, qu'il va mourir. Donc il est angoissé, puis il prie, il cherche le soutien de son père pour avoir la force, hein, pour affronter la mort. Et à ce moment-là, dans le film, ils font un choix, hein, qui est pas quelque chose qui est relaté dans les évangiles. Mais il montre Satan qui vient le tenter et qui lui dit « c'est trop, tu ne peux pas porter ça, c'est trop lourd pour toi de porter les souffrances de l'humanité, etc. » Et tout d'un coup, dans le film, on le voit qui se transforme en serpent et on voit la lune tout d'un coup, qui, hein, il y a un effet cinématographique comme ça, la lune qui se couvre, il fait sombre et puis on sent Jésus qui lutte. Et puis à un moment donné, il prie et puis il prend sa décision. Puis voilà, on sent ça, il est déterminé, il va y aller. Il a lutté, mais il sait que c'est ce qu'il doit faire et il y va. Et à ce moment-là, il écrase. De son pied le serpent. Donc voilà, ils font dans ce film-là une allusion à ce verset. Ce verset, certains l'appellent le proto-évangile. Ils disent, voilà, c'est la première fois que dans la Bible, on trouve l'évangile annoncé. C'est vrai, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que il y avait la mort qui était annoncée en cas de rébellion, et paradoxalement, il y a quand même la vie qui arrive, parce que la femme va avoir des enfants. D'ailleurs, c'est à ce moment-là dans le texte qu'elle est nommée, elle va s'appeler Ève, ce qui veut dire vie, Et là encore, il y a encore un autre signe d'espoir, c'est-à-dire que malgré la mort, malgré la condamnation, malgré le fait qu'il y a une vie maintenant qui va être plus compliquée, plus difficile, eh bien, il y a une espérance qui est là. Il y a quand même une source de vie. Que, au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, il y a aussi une vie qui est donnée. Encore un signe d'espoir. Ouais. Il y a le fait que finalement, le sol continuera de produire du fruit. Ça va être difficile, mais il y aura encore du fruit quand même, malgré tout. Encore une fois, ce n'est pas que ça s'arrête. Hein, quand on lit ce passage, peut-être au début, on trouve que c'est dur. On dit Dieu, il est dur et tout ça. Mais en fait, finalement, quand on change de perspective, on se rend compte de toutes ces choses qui ne vont pas de soi. Et que finalement, Dieu a décidé d'accorder. Il continue de rendre la vie possible. Il permet que le sol produise du fruit, malgré tout. Ça va être plus difficile, mais il y aura encore du fruit. Ça va être possible encore de manger. Tu mangeras du pain, certes à la sueur de ton front. Et puis, une dernière chose peut-être, c'est le dernier verset. Le jardin d'Éden continue d'exister. Et quelque part, moi, en tout cas, quand j'étais petit et quand je lisais ce truc-là, je me disais, je pensais à l'époque que le jardin d'Éden peut-être existait encore quelque part, je ne sais pas où, qu'on pouvait y retourner. Et c'est l'impression que laisse un petit peu ce texte, hein, que le paradis n'a pas été détruit. Qu'il y a une forme de retour possible. Alors, ce n'est pas, à mon avis, à prendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un coin encore, quelque part en Amazonie, qu'on ne sait pas encore, puis en fait, c'est le jardin d'Éden. Puis, le jour où on trouvera un chérubin devant avec son épée flamboyante. Et... je ne crois pas que c'est ça. Mais ce que je crois que ça veut dire, c'est qu'il y a un retour possible vers quelque chose qui ressemble à Éden. Et là, on est vraiment plein dans cette thématique de l'espérance. Il y a quelque chose qui est possible. C'est pas la fin. Dès le chapitre 3, on voit c'est pas
si
le dernier mot.
Dans le chapitre 4, en faisant des recherches, on peut à peu près voir ou situer où se trouve le jardin d'Éden.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que là, il cite les trois fleuves.
Oui, c'est juste.
Important qui a traversé l'Éden.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est dans le récit, le localise géographiquement.
Voilà, si on va chercher, on peut à peu près voir où c'est.
C'est juste.
Où c'était.
Ouais, où c'était, voilà. Voilà. Mais le texte ici laisse une ouverture. Il ne dit pas que le jardin a été détruit ou envahi par le mal aussi. Il est resté.
Il y a
un lieu protégé. Et c'est comme. Quelque part, le message pour moi que je reçois là, c'est comme si une forme de retour était possible vers ce genre de monde. Voilà. Retourner vers un monde tel qu'il était au départ, c'est-à-dire un monde qui serait à nouveau libéré du mal. C'est notre espérance dans le paradis, quelque part. Croire qu'il existe un monde qui ressemble à ce qu'il y avait au début, un monde qui est libéré du mal, un monde où il n'y a plus la mort, où il n'y a plus la maladie, où les relations peuvent de nouveau être équilibrées, saines, sans conflit, etc., etc. Le paradis, voilà, c'est ça, le paradis. Ouais. Mais devant ce jardin d'Éden, maintenant, il y a ce chérubin, il y a cette épée flamboyante. Moi, ce que je crois que ça veut dire, et ce que nous dit la Bible, c'est que pour retourner dans ce jardin, il a fallu d'abord que quelqu'un prenne ce chemin-là avant nous et qu'il le fasse au coût de sa vie, qui nous ouvre l'accès, le retour au jardin, mais au prix de sa vie. C'est-à-dire que symboliquement, ce chérubin a vraiment abattu son épée. On ne pouvait pas retourner au jardin sans qu'il y ait un jugement qui soit exercé sur les personnes qui avaient corrompu ce jardin. Voilà. Ça nous ouvre déjà un petit peu la... évidemment, moi, je fais allusion à Jésus, hein, et au fait que ce qu'on croit, c'est que... ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus a ouvert ce chemin. Un chemin d'accès, un chemin de retour vers un monde à nouveau libéré du mal, au prix de sa vie. Et ça nous fait déjà un petit peu la transition avec ce qu'on verra dans 15 jours, un petit peu comprendre la souffrance à la lumière de la croix. Alors voilà, ce que le message central ce soir, c'était de comprendre que pourquoi on vit dans un monde déchu et un monde brisé, comme un instrument de musique cassé quelque part, qui au début était beau, donnait une mélodie fantastique, et puis aujourd'hui il est cassé, le son est plus très harmonieux, etc. On vit dans un monde, mais voilà, qui est plus tel qu'il est, tel qu'il devrait être. Mais au fond, nous, on sait qu'il y a cette aspiration vers autre chose. Et la bonne nouvelle, l'espérance qu'on a dès ici, dès Genèse 3, c'est que quelque part, il semble qu'il y a une espérance qui est possible, qu'il y a un monde qui est délivré, qu'il existe une vie où on pourrait être délivré de la souffrance. Ouais. Voilà. Bah, j'aimerais ouvrir un temps de questions, peut-être, ou des remarques, ou des commentaires. Ouais. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec tout, vous avez le droit.
Hein. Ouais. Question, tu avais dit la souffrance de Dieu. Tu ouais. peux nous dire un peu plus.
Mm-hmm. On en parlera aussi dans 15 jours, justement, mais ce que je crois, c'est que si Dieu nous aime, je pense qu'automatiquement, il souffre aussi, quoi. Parce que je pense que si Dieu nous aime, rien que de devoir nous faire vivre dans les conséquences, dans un monde déchu, hein, dans un monde difficile, je pense qu'il en souffre. Je pense qu'il souffre de voir l'état du monde, parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il s'en ficherait, quoi. Donc, quelque part, dans ce texte ici, on ne dit pas que Dieu a pleuré, que Dieu. Mais quelque part, moi, dans ce texte, j'imagine Dieu profondément triste. Qui dit quel dommage, d'un certain sens, tu vois. Et qui souffre de ce que l'homme ait choisi de ne pas lui faire confiance. Ouais, qui est déçu, ouais.
S'il n'avait pas été touché par l'homme, il aurait pu tout simplement le punir, ouais. comme il l'avait proposé. Et là, au contraire, il entre en dialogue avec lui.
Ouais.
Il lui fait avouer même ce qu'il a fait, mais il ne l'accuse pas tout de suite.
Non.
Est-ce que tu as mangé de l'arbre ? Il sait parfaitement qu'il ouais. l'a fait. Mais il le lui fait avouer gentiment, mm-hmm. comme s'il voulait encore... essayer de le pardonner pour ça.
Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est intéressant de voir comment il choisit de s'approcher de l'homme, ouais. Ouais. Et de la femme. Ouais, ouais, je sais pas s'il y a d'autres. Quelqu'un qui souhaiterait faire un commentaire ou une réaction ou une question. Ok.
Moi, je trouve juste incroyable la richesse de ce texte, quoi.
Ouais.
Et merci pour tous ces commentaires, parce que je trouve que c'est en quelques lignes tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on apprend sur Dieu, sur l'homme.
Ouais.
C'est un texte qu'on a l'habitude de lire depuis qu'on est tout petit et qu'il y a un nombre de coups.
Ah ouais. Mmh. Ouais, c'est un texte qui explique déjà beaucoup de choses, hein. Qui nous aide à comprendre beaucoup de choses, hein. Ouais. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, moi je vous ai imprimé une petite bibliographie, si certains après je la mettrai à disposition. Et puis moi, j'aimerais demander simplement peut-être à... Allez, je vais demander à Claire si tu es d'accord, simplement peut-être de prier pour conclure cette soirée. Oh, c'est vrai, j'aurais dû demander à quelqu'un d'autre. Tu peux quand même prier ou pas? Oh, sinon, je demande à quelqu'un d'autre. Hein. Tu es libre. Ça va jouer ou pas? Ok.
Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement heureux.